lorsqu'on évoque, il est vrai, le conditionnement, on va dire, psychologique, on pense très souvent aux vecteurs de diffusion traditionnels, que sont les affiches, les tracts, les livres, la presse, la radio ou encore le cinéma, en tout cas pour la période qui nous concerne. Mais il peut aussi utiliser donc des supports plus subtils, surtout quand il s'agit justement de pénétrer l'esprit donc des plus jeunes. Donc, et ça, on peut le faire aussi par le jouet et par le jeu. Donc, il est bon de rappeler que justement ces jeux et ces jouets ont connu un essor important avec le processus d'industrialisation, donc à la fin du XVIIIe. Les enfants vont devenir un enjeu politique et pédagogique avec l'essor des États-nations européens et aussi des nationalismes. La production donc des jouets guerriers patriotiques va connaître un développement très important au cours du premier conflit mondial, en particulier en Europe. Mais le sujet ne va pas, en tout cas le sujet militaire ne va pas disparaître pour autant pendant l'entre-deux-guerres, bien au contraire, puisque pendant l'entre-deux-guerres, et ça on va un petit peu s'attarder dessus, justement la montée des périls, mais aussi la montée des idéologies nazies et fascistes, va faire que le monde du jouet va participer au conditionnement de cette jeunesse et anticiper le conflit à venir. Donc à partir de 1939, l'année de l'entrée en guerre, en tout cas pour l'Europe, hein, puisque depuis 2 ans déjà on se bat en Asie, on assiste à une véritable explosion des jeux et des jouets guerriers et patriotiques. Et la guerre va devenir une source d'inspiration inépuisable pour les fabricants. Donc elle va être d'une grande diversité, puisque tous les pays, véritablement, ont leur propre tradition, leur propre culture du jeu. Donc dans le cadre de cette étude, nous allons déjà nous attacher justement à la production de 4 pays justement industrialisés qui vont être directement impliqués dans le conflit, à savoir les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et elle ne prendra en compte que les jouets et les jeux produits en série. Si la production est importante, donc dans un premier temps, donc on va s'interroger sur les buts et les aboutissants justement de ces objets. Donc si la production est importante, le nombre de fabricants l'est aussi, même si on voit peu à peu donc une concentration notamment de ces fabricants avec l'émergence notamment de grosses sociétés, en particulier en Allemagne. Donc la production donc de jeux et de jouets, comme je l'ai dit, donc elle va être très spécifique à chaque pays. Les jeux reflètent l'identité culturelle des sociétés, mais aussi leur niveau économique. Ils s'inspirent des jeux existants, familiers aux enfants, et les combinent avec des sujets qui vont être liés aux armées, à la guerre et au conflit. En produisant ce type de jeux, les fabricants vont participer à l'effort de guerre de leur pays en transmettant aux plus jeunes les valeurs, les convenances, les consignes et à respecter dans les pays qui vont être en état de guerre ouverte. Et il ne faut surtout pas oublier que les fabricants sont avant tout des commerçants qui doivent vendre leurs produits pour faire des profits. Donc s'inspirer des faits guerriers, du matériel et des menaces pesant sur les populations peut donc s'avérer être un judicieux calcul. Les États interviennent relativement peu dans ce domaine, à quelques exceptions près, pour en citer une ou deux, mais il faut dire que la pression sociale en temps de guerre et le risque aussi de ne pas vendre les jeux sont des garde-fous efficaces. Sur ces contrôles, donc, on pourra par exemple citer en France, sur une catégorie de jeux particulière, notamment ceux où on va reproduire l'effigie du maréchal Pétain. Donc il y a nécessité justement de soumettre justement ce jeu aux organes de propagande et une autorisation justement va être donnée, c'est-à-dire que sur les boîtages on va voir apparaître les lettres OA justement avec un numéro d'autorisation, donc ce qui montre qu'il y a quand même un contrôle lorsque, en tout cas dans ce cas précis, on utilise donc l'image du maréchal. Aux États-Unis, sur les boîtages aussi des jeux, on voit très souvent donc apparaître donc le logo donc des War Bonds ou des War Stamps, donc et en fait ça aussi implique quelque part une forme de contrôle de la production et une vérification des contenus, mais ça reste quand même relativement léger. Alors ça c'était pour le côté des fabricants. Pour les enfants en eux-mêmes, donc alors les enfants, on va dire que la prégnance de plus en plus forte de la guerre dans leur quotidien. On va être exploité à bon escient par les fabricants et les commerçants pour qu'on puisse leur offrir donc, des loisirs militarisés. Les jouets vont faire l'objet d'une production censée s'adapter aux attentes des enfants et à leur niveau d'apprentissage. Ils vont permettre une adaptation à la guerre de manière ludique. Le joueur va reconstituer une scène et en la rejoignant va la maîtriser. Donc, quelquefois, j'ai après plusieurs essais. Le jeu donc, est une activité de loisir qui va être soumise à des règles acceptées de tous pour se divertir et donc particulièrement utile dans le cadre d'une situation traumatisante où les repères quotidiens ont été bouleversés par la mobilisation, par exemple le départ du père, l'incertitude, la peur au moment des combats ou des bombardements. Le jeu n'annule pas les règles, il les rend au contraire particulièrement lisibles et univoques. Pour les plus petits, donc, prenons quelques exemples, puisque les jeux justement, s'adaptent à l'âge des enfants. Donc, pour les plus petits, on va pouvoir trouver des jeux de cubes, des abécédaires, des puzzles, des livres de coloriage, des planches à découper, des jeux de cartes. Pour les plus grands, des jeux de plateau, des maquettes, des jeux de stratégie. Les modèles de chars, de canons, d'avions et de navires miniatures suivent les dernières innovations techniques et glorifient ainsi la puissance industrielle des pays. Les armes factices, les jeux d'adresse, les petits soldats, matérialise l'imaginaire de la guerre et entretiennent la ferveur patriotique de la jeunesse. L'enfant doit prendre fait et cause pour son pays. On attend de lui donc un comportement exemplaire. Donc, pour le garçon, donc, celui d'être un futur soldat. Et pour la fille, justement, notamment l'image de l'infirmière. Les rôles sociaux attribués aux filles et aux garçons sont nettement séparés dans l'univers du jeu à cette époque également. Donc ça, c'est là un point très important. Donc, c'est un univers sexué. Il reprend les normes de l'époque. Si rien n'empêche que dans la sphère du privé, de la pratique du jeu ou du jouet dépasse le clivage des sexes, la pression sociale aussi reste omniprésente, étant à maintenir les garçons et les filles dans le rôle qui leur est dévolu. Les panoplies donc, ont un rôle de reproduction sociale. Les garçons revêtent l'uniforme de leur père, partis au combat. Les petites filles soignent les soldats blessés en tenue d'infirmière. Ça peut sembler paraître un cliché, mais au travers du jeu, c'est véritablement les images qui sont le plus utilisées. C'est la première fois que les enfants donc, vont être autant impliqués dans un conflit d'adultes. L'avenir de l'ensemble de l'humanité étant remis en cause par les belligérants, cela peut permettre d'expliquer justement que même les plus jeunes doivent y participer. Alors maintenant, donc, on va voir justement comment ces jeux de manière chronologique, justement, on va suivre le conflit et voir au fur et à mesure quels jeux, justement, les jeux les plus importants, les plus marquants, vont sortir et comment ils vont suivre aussi le déroulement de la guerre. Et on va voir justement des évolutions se dégager. En Allemagne, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les fabricants de jeux vont accompagner la mise au pas de la société donc, par les nazis et vont devenir les chantres relativement zélé de leur propagande. Alors ici, notamment, on a le jeu donc Ein Reich durch Deutschland qui va sortir en 1934. Et donc ça, c'est un parfait exemple puisque même si donc on y voit une cartographie donc de l'Allemagne donc avant 39, avant l'invasion de la Pologne, même avant 38 puisque la Tchécoslovaquie est encore entière. L'important, c'est le texte, puisqu'en fait, le texte va reprendre notamment des écrits de Hitler hein, qui est depuis un an au pouvoir en Allemagne. Et donc le texte rappelle les étapes de l'accession au pouvoir du Führer et le jeu va exalter l'histoire glorieuse des régions, des villes en mentionnant notamment les personnages célèbres et les principaux événements qui s'y sont produits. Et il est même fait mention des territoires perdus en 1918 dans le texte. Donc c'est un jeu qui peut sembler banal mais finalement sa portée est relativement grande, notamment pour les enfants. Alors après, donc, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, puisque là, on va avoir des produits véritablement, qu'on peut dire, estampillés de la Svastika. C'est-à-dire qu'on a des jeux de plateau, donc on a le Blogegenrot, donc, que je n'ai pas mis, donc, qui est un jeu justement assez remarquable. Ici, donc, on a donc, Hitlerjugend Gelernte Übung, et donc Hitlerjugend Heimatspiel, donc qui sont des jeux qui sont destinés aux jeunesses hitlériennes. Donc sur le boîtage, donc c'est clair. puisqu'on les reproduit, justement en uniforme. Donc la symbolique nazie est très marquée, donc, et à côté de cela, on va même voir aussi des fois des poupées en uniforme, des jeunesses hitlériennes ou des BDN. Sur un autre sujet, mais qui est en lien aussi avec l'ascension, du moins la mise en place du régime nazi en Allemagne, donc ce sont les jeux qui vont être consacrés à la création des autoroutes. Donc ça, c'est une création qui est souvent... Que les nazis ont repris à leur compte, même si justement le premier bout de réseau autoroutier avait déjà été construit autour de quelques villes. Donc ici on voit le jeu Reich Autobahnenspiel, Unser Deutschland, qui lui justement, alors là je ne l'ai pas mis, Unser Deutschland, en fait on voit un aigle, les aigles déployés justement, un aigle noir sur fond rouge. Die Reichsautobahnen im Großdeutschen Reich, qui vont donc glorifier la création du réseau autoroutier. Et on a aussi le jeu Dein KDF-Wagen, qui peut sembler très sympathique, mais finalement il met en exergue la voiture du peuple, créée par Ferdinand Porsche, à la demande de Hitler, la voiture populaire. Les fabricants allemands aussi justement vont très loin. Puisqu'on ne va pas hésiter justement à reproduire les dirigeants politiques, donc comme Hitler, Mussolini, Goebbels, Hess ou Göring. Donc ce sont les firmes Lineol et Lastoline qui s'en chargent. Et donc, et sur la gauche, on peut voir la fameuse Mercedes 770 qui va être immatriculée 2A193-57. C'est l'immatriculation d'une des Mercedes de Hitler. Donc c'est la firme Tipenko qui produit justement ce beau jouet. Finalement, c'est un jouet luxueux qui reproduit avec beaucoup d'exactitude l'un des véhicules personnels d'Hitler. Et donc à l'intérieur, bien sûr, on retrouve justement Hitler et ses gardes du corps. Le Berghof lui-même va être produit et donc va devenir un jouet à la mode. Les organisations paramilitaires justement ne vont pas aussi échapper, puisque toujours chez ces fabricants Lineol et Lastoline des cortèges notamment de SA et tous les organes paramilitaires du régime justement sont reproduits. Donc la propagande nazie s'immisce partout et avec force. Ensuite vient le temps de la remilitarisation de l'Allemagne. Alors là, les fabricants vont aussi accompagner la naissance de la Wehrmacht et donc le programme de réarmement. Les figurines militaires du Lancer, toujours produits par Lineol et Lastoline. Donc, on abandonne l'uniforme de la Reichswehr pour celui de la Heer, de la Kriegsmarine ou de la toute nouvelle Luftwaffe. Ici, on voit un jeu, Au welche Lust Soldat zu sein, qui est sorti en 1937. Et qui montre combien la vie d'un soldat justement allemand est trépidante et intéressante, c'est-à-dire que c'est une invitation à s'engager pour les enfants. Les firmes Marklin, Gamma, Hauser ou Tipenko vont reproduire aussi tout l'arsenal militaire en jouets de tôle de très belles factures qui vont connaître un très grand succès en Allemagne. Le fabricant Arnold, là on le voit, j'en reviens un petit peu en arrière, par exemple, va fabriquer ici sur la droite le sous-marin en tôle U-29, qui va être aussi également très prisé. Les jeux de stratégie, comme ici, Kampfjäger Vorwärts ou Panzerkampfwagen Vor, ne sont pas en reste. Ils accompagnent la remilitarisation du pays. Klar zum Gefecht, ici en bas à gauche, est le pendant pour la Kriegsmarine. Ils propagent l'image d'une armée belliqueuse, fin prête au combat. Le jeu qui vient ensuite, sur la gauche, toujours Volksausgewehr, qui sort juste avant l'annexion de l'Autriche, exhorte les Allemands à prendre les armes. Donc on peut voir que les boitages, en fait, sont des boitages finalement très efficaces, très bellicistes, et on porte nu justement l'armée allemande. Sur la droite, une autre typologie de jeu, un petit peu plus subtil, qu'il faut savoir décoder, c'est le jeu Radio Sandspiel, donc qui est paru au début de l'année 40 et qui est basé sur la sécurité des transmissions allemandes à travers le Grand Reich. De l'autre côté de la frontière, justement, les petits Français jouent encore la guerre des tranchées. Ils prennent aussi la mesure du sacrifice de leur père. Il faut d'ailleurs remarquer, je suis sûr que c'est la même chose en Allemagne, et ils tentent aussi de s'en montrer dignes. Le bleu riz, alors sur un jeu donc, que nous exposons dans les parcours, donc c'est le jeu de la ligne Maginot. En fait, c'est un fort de la ligne Maginot qui est représenté sur quatre étages. Il y a quelque chose finalement de très intéressant dans ce jeu, c'est le fait qu'on y voit justement des soldats, donc soldats français, donc soit en uniforme bleu horizon, et d'autres en soldats kaki. Donc toute l'armée française, on va dire, est reproduite au grand complet, donc par la firme donc Mignot. Et ce qu'il y a d'intéressant finalement, c'est que l'ennemi n'est pas représenté. Les soldats français, s'affrontent comme s'il s'agissait de simples manœuvres militaires. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire penser aux enfants. Et dans une France profondément pacifiste, il ne fait pas bon encore de désigner l'Allemagne comme le futur adversaire. Alors en septembre 39, donc, le déclenchement des opérations militaires va trouver encore un écho chez les fabricants de tous les pays qui vont participer au conflit. En Grande-Bretagne, on va voir notamment des jeux, notamment le jeu Bombo, qui propose aux joueurs de scorer en lançant des projectiles sur un plateau de jeu représentant la ligne Maginot et la ligne Siegfried. La firme Blackout sort un jeu directement inspiré de la célèbre chanson « Hang your washing on the Siegfried Line », donc « Allez pendre votre linge sur la ligne Siegfried ». Donc il y en a deux. Donc ça, c'est on est vraiment dans l'univers justement de la drôle de guerre, sur une phase d'attente. En Allemagne, donc, on a un jeu aussi assez remarquable. Donc c'est Mitprien gegen Engeland. Donc c'est un jeu où on célèbre le raid mené justement par Günther Brien, par le sous-marin de Günther Brien du 47, qui va réussir à pénétrer dans la rade de Scapa Flow le 14 octobre 1939 et à couler un cuirassé britannique et s'en sortir et regagner justement son port d'attache. Donc ce Brien va devenir un véritable héros national. Et donc c'est sans doute un des seuls jeux allemands où on va voir justement un personnage qui va donner finalement son nom au jeu. Alors Brien, lui, va continuer sa carrière, il va couler plus de 30 navires alliés dans l'Atlantique et il va disparaître justement avec son équipage le 7 mars 41, victime justement d'un navire britannique. La campagne de 1940 et la guerre menée contre l'Angleterre, sur mer et dans les airs, va être aussi une source d'inspiration. Donc ici, on retrouve sur ce jeu allemand donc le slogan « Wir fahren gegen England ». Donc, il y a plusieurs jeux, justement, plusieurs jeux de ce type. Ici, on a la version, on va dire, marine, avec les sous-marins. Il y a aussi une version pour la Luftwaffe. J'essaye de montrer, parce que c'est vrai que les boîtages, en fait, sont très importants, justement, dans ces jeux. Les plateaux peuvent l'être également. Quelquefois, il est même très intéressant de voir que le boîtage fait le jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir une image très guerrière sur la boîte et à l'intérieur on va se retrouver avec un plateau de jeu relativement classique. Mais donc l'image va faire travailler aussi l'imaginaire de l'enfant. On retrouve sur la gauche, donc le jeu, donc c'est Der Siegeszug unserer jungen Wehrmacht. Donc là, le boîtage aussi parle de lui-même, puisqu'il s'agit justement de bombardiers allemands qui bombardent Londres. Sur la droite, donc, on a le jeu Der Adler Luftkampfspiel, qui est un jeu daté de 1942. Il y a une série de deux jeux comme ça sur le thème de la Luftwaffe qui sont sortis et qui étaient, on va dire, commandés par la revue Der Adler. Donc c'était la revue pour la Luftwaffe. Et donc sur le boîtage, en fait, on reprend une scène de la bataille d'Angleterre, mais cette fois, ce ne sont pas les Anglais qui gagnent, mais ce sont les Allemands. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, même si le sort des armes va devenir de plus en plus défavorable aux forces allemandes, l'enfant va être abreuvé par la propagande et ne va guère s'en préoccuper. Si le développement ne plaît pas, de toute façon, il peut rejouer la partie ou repartir du début, comme si rien ne s'était passé. On va cependant voir une autre catégorie de jeux apparaître au fur et à mesure. Donc c'est un autre sujet qui va toucher cette fois toutes les populations des pays en guerre. Il s'agit des bombardements et de la défense passive. Cette fois, il s'agit de dédramatiser la situation et d'éduquer les plus jeunes aux dangers donc, et aux mesures à prendre. Les enfants britanniques vont apprendre l'importance à respecter le blackout grâce aux jeux, notamment celui-ci, New Blackout Out Game, et à rire notamment de l'évacuation dans les campagnes des enfants avec le jeu de cartes Evacuation. Donc tous les pays, notamment la France, la Grande-Bretagne, puis après l'Allemagne, pour justement protéger leurs enfants, vont les envoyer à la campagne, justement, puisque les villes sont les cibles prioritaires, notamment des bombardements. Il faut dire que les Britanniques, dans le traitement notamment des jeux, ont beaucoup d'humour. Et ces jeux de cartes, justement, sont une manifestation. Ici, on va voir notamment un autre jeu, notamment sur la gauche. C'est le jeu ARP, donc ARP pour Air Raid Precautions. Donc, il s'agit de l'organisme de défense passive britannique. Donc, il permet aux plus jeunes de découvrir cette organisation qui est chargée de les protéger pendant les bombardements et de les secourir. Donc, la guerre aérienne et la défense des convois sont un thème très cher, notamment pour les fabricants britanniques. Mais il faut dire que, de toute façon, on voit comme une grosse différence de production entre les pays. L'Allemagne est un gros fabricant, les États-Unis vont l'être tout autant, la France et la Grande-Bretagne le sont beaucoup moins. La France, pour les raisons bien sûr qu'on connaît, mais les Britanniques, justement, en tout cas, à ma connaissance, ont une production qui est quand même très limitée, très concentrée. Les jeunes Allemands, eux aussi, justement, vont être justement happés par ce nouveau sujet que sont les bombardements. Donc, ils se sont amusés à détruire de manière fictive l'ennemi, donc avec un jeu, notamment comme Bomben über England au début de la guerre. Mais à partir donc de 1942-43, il ne va plus être possible de célébrer la chute d'une armée ennemie, puisque l'armée allemande est partout en retrait. Et donc, on a justement des jeux finalement qui sont beaucoup plus négatifs, je dirais, en tout cas justement dans l'image justement qu'ils véhiculent. On va avoir notamment un jeu qui s'appelle Find Out Mir, donc c'est l'ennemi nous écoute qui va sortir. On a des jeux justement aussi qui vont prendre en compte justement ce sujet du bombardement. Alors auparavant, notamment dans la série des Radler dont j'ai parlé, donc on voyait justement le premier jeu qui est un jeu où on voit l'armée allemande offensive et victorieuse puisqu'on est en train de détruire la chasse adverse. On est en train de bombarder un pays adverse. Le deuxième jeu justement est un jeu consacré à la flak. C'est-à-dire qu'ici, justement, la victoire, ça ne va pas être détruit, ça va être toujours détruire un adversaire, mais l'adversaire qui est en train de bombarder, justement, le sol national. Donc le message est différent, mais finalement, pour l'enfant, pour l'enfant, il s'agit avant tout de détruire les bombardiers ennemis. Mais il n'empêche que le pays, lui, est sur une phase défensive. On essaye de positiver le sujet. Donc la Luftschutz et donc la flak aussi sont mises à l'honneur. Ici, on a un plateau de jeu, donc du Flieger Alarm. On voit notamment au travers des scénettes, justement, tout l'univers, tout le quotidien, justement, des familles qui habitent dans les villes bombardées, que ce soit de l'alerte aérienne, aux mesures de protection, à la descente aux abris, etc. En France, donc, la défaite militaire subie en 1940 et la phase d'occupation ne vont pas être propices au développement des jeux guerriers et patriotiques, on s'en doute. L'État français va produire à moindre coût des plateaux de jeux, surtout pour faire la promotion du régime et des valeurs de la Révolution nationale, mais aussi pour diffuser l'image du sauveur de la France, à savoir le maréchal Pétain. Donc les titres sont évocateurs, donc il y a le jeu de l'Empire français, on a ici donc le jeu de la Francisque, à gauche. Pour d'autres, la marque du nouveau régime et de son chef va être plus subtile. On a des jeux de cubes, par exemple pour enfants, jeux de cubes où sur une des faces, on a des jeux de 4 à 5 cubes, sur une des faces on va voir apparaître justement le portrait du maréchal ou son bâton de maréchal, ou dans les autres images justement des objets qui vont être aussi en relation avec les valeurs défendues par le régime de Vichy. Sur la droite, on peut voir deux autres jeux, là ce sont des Pulse, Donc il y a un puzzle donc, qui s'intitule « La vie du maréchal en 5 puzzles », donc avec très peu de pièces, donc qui sont destinées véritablement à des enfants en bas âge. Et dessous, justement, un autre petit puzzle, justement, toujours avec l'effigie du maréchal. Quelques rappels, notamment de ses voyages à travers la France. Donc ce sont des jouets, justement, faciles à produire, dans de fines couches de carton, tout simplement aussi parce qu'on est, en période d'occupation, donc il y a aussi le poids des réquisitions et des pénuries. On doit faire avec peu. Alors ici, on a deux autres jeux qui vont être... Qui vont sortir justement pour faire la promotion, notamment de, je veux dire, des organisations, on va dire, qui soutiennent le régime de Vichy, donc comme la Légion française des combattants, donc avec un jeu justement présenté sur la gauche, avec on le voit justement cette sorte de pyramide où il y a justement tous les codes, toutes les valeurs justement défendues par justement cette légion, avec tout en bas les bases, hein, les bases construites, justement, solides, travail, famille, patrie. Et sur la droite, on va avoir justement un plateau de jeu, donc le jeu du jeune de France. Donc là, on est justement dans la sphère des chantiers de jeunesse. Alors il faut dire qu'aussi la vente, et ça peut aussi aider justement à les commercialiser, c'est que la vente de ces jeux de société donc pouvait être aussi un moyen de financer l'aide aux prisonniers et aux prisonniers de guerre et aux sinistrés. Les États-Unis, donc là on est en décembre 41, donc les États-Unis entrent en guerre après l'attaque sur Pearl Harbor. Donc les fabricants qui étaient restés relativement silencieux justement sur le thème du conflit vont rapidement se mettre au diapason. Et donc ici, certains finalement justement vont s'y mettre très vite, même peut-être avant l'entrée en guerre. Ici, on a un jeu assez important, c'est une version de luxe, donc qui va être fabriquée par la firme Corey Game. Qui a produit un jeu avant-guerre, donc qui s'appelait Yankee Trader, et qui va sortir dans le courant de l'année 41, le jeu Blockade. Et ce jeu, en fait, alors que le pays est encore dans une phase de neutralité, ce jeu, en fait, le but, c'est de faire passer des convois à travers l'Atlantique, où rôdent les sous-marins allemands, pour approvisionner les îles britanniques, donc, et dans le cadre du Land-Lease Act. Donc on peut voir, donc même si ça a été légèrement transformé, adapté pour le jeu, donc les deux îles, noires et rouges, puisqu'il y a deux camps, sont très ressemblantes et font très clairement penser à l'Angleterre. Et le boîtage aussi, justement, permet d'identifier les menaces pesant sur les convois, à savoir les sous-marins et l'aviation allemande. Le traitement graphique de beaucoup de jeux et de jouets va rassurer les enfants. L'humour est souvent de mise quand on évoque les dirigeants des pays de l'Axe. Ici, on va le voir normalement avec ce jeu, donc Bolem Ova. Donc c'est un jeu de bowling, où justement, il s'agit à la fois de soldats, justement, de soldats de l'Axe, vraiment très stylisés, mais surtout justement des trois leaders, savoir Hitler, Mussolini et Hirohito. Donc, l'humour est souvent de mise. Donc, quand on évoque les dirigeants des pays de l'Axe, on dénigre aussi, on avilit l'ennemi, en particulier les Japonais, que l'on tend même à déshumaniser. Et cela, ça va se retrouver dans toute la propagande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec le temps, les jeux américains vont devenir aussi de plus en plus agressifs. La violence est banalisée. Il ne s'agit plus simplement de protéger les civils des frappes aériennes, mais aussi l'ennemi de la même manière que font les aviateurs. C'est-à-dire que ça, c'est une thématique très forte qu'on retrouve chez les Américains. Alors ici, on a Bomber Attack. Là, on est plutôt dans un jeu défensif, puisqu'il s'agit de se protéger de frappes aériennes. Alors c'est vrai que les États-Unis, de ce côté-là, vont être relativement épargnés, mais il n'empêche qu'au début de l'année 1942, on va craindre justement à la fois un possible débarquement des troupes japonaises, mais surtout des bombardements. Et donc ici, donc les frappes aériennes, donc les bombardements, ça va être la première manifestation justement militaire aussi des Américains dans le conflit européen, avec l'envoi justement de bombardiers. Donc il s'agit de frapper l'ennemi justement par les airs. Alors il y a des jeux à la fois destinés, on frappe l'Allemagne, et d'autres, on frappe le Japon. Et ceux du Japon sont même plus nombreux. Dans les parcours, nous exposons notamment un petit jeu, Bomb Tokyo, qui va être distribué par une firme de céréales, par correspondance, et qui évoque en fait le premier raid de bombardement sur Tokyo le 18 avril 1942 par le lieutenant-colonel Doolittle. Donc avec un petit avion en carton, on survole un plateau de jeu qui représente une ville japonaise, et on fait tomber une petite boule de papier, et donc chaque cible donne droit à un nombre de points. Donc quand il s'agit d'une cible militaire, on est à plus 100, plus 200. Quand il s'agit d'un hôpital ou d'un abri, on perd des points. Tous ces jeux conservent quand même une dimension éducative. Alors il y a des jeux de cartes qui vont permettre aux enfants d'apprendre à connaître la silhouette des avions, des navires, qu'ils soient amis ou ennemis, ou bien les différentes spécialités militaires. De la même manière, il y a des jeux d'optique, des jeux de lancer, qui permettent de se familiariser avec les trajectoires, la vitesse des projectiles. Ici, on en a un cas concret, ce qu'on appelle un bomb sight, un viseur de bombardier, donc avec les petites bombes en bois. Et normalement, donc, il y a un plateau de jeu, on met l'œil dans l'œilleton et on doit faire tomber la bombe sur la cible. Les figurines, les poupées, les images d'Épinal, les reproductions d'uniformes, les pièces d'équipement laissent libre cours à l'imagination des enfants tout en mettant en avant l'héroïsme guerrier. Dans les pays anglo-saxons, l'humour est toujours de mise. Et donc, comme je l'ai déjà dit, donc, l'image des dirigeants de l'Axe, justement, est un bon exutoire puisque on les égratigne sans vergogne. Ici, donc, quelques autres jeux, parce qu'après, on retrouve un autre modèle de bomb sight. Ici, devant, donc, un jouet, donc, c'est un jouet mécanique, donc une Jeep. Il y a aussi les livres de coloriage qui montrent véritablement tout l'univers qui reste à explorer. Alors, en conclusion, il faut surtout aussi s'interroger sur aussi l'impact de ces jeux, finalement. Parce que si la production est là, il se pose aussi la question de la diffusion. Est-ce qu'ils se sont vendus? Et en quelle quantité? Alors, il est difficile de répondre à cela parce qu'il y a eu quand même de nombreuses petites entreprises qui ont disparu. Et donc, de la même manière, leurs archives aussi vont disparaître. Ou ont disparu. Il faut aussi garder en mémoire qu'il ne s'agit que d'une petite partie de la production d'objets à destination de la jeunesse. La fabrication en fait, des jeux classiques va se poursuivre en temps de guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du jeu militaire. Il y a des jeux, je dirais, civils. Je pense que ce sont les plus importants en quantité. Prendre aussi en compte que la durée de vie des jeux va être beaucoup plus importante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire que un jeu qui peut être produit dans l'entre-deux-guerres va continuer à servir 10 ans plus tard, sauf cas particulier. Il ne faut pas non plus oublier les jeux et les jouets de fortune qui vont être fabriqués par les enfants. Donc, tout à l'heure, on parlait des accessoires de jeux d'action, donc on y est. C'est que quand ces jeux, qui quelquefois aussi peuvent être très chers, l'enfant ne peut pas les avoir, il n'en a pas besoin puisqu'il va aussi s'en fabriquer d'autres et pouvoir justement jouer à la guerre de la manière la plus simple possible. Alors, on ne connaît pas non plus la fréquence d'utilisation de ces jeux. Si certains jeux sont réservés aux enfants des familles aisées du fait de leur prix, il faut quand même dire que les restrictions en matière première, notamment, va faire baisser la qualité de ces jeux, mais aussi les rendre plus abordables. Et c'est aussi, je pense, le but de certains fabricants. Donc cette étude, en tout cas, même s'il est, je pense, encore incomplète, on va dire qu'elle est en devenir, elle montre aussi qu'une partie des jeux et des jouets produits en temps de guerre ont quand même pu participer au conditionnement de la jeunesse. Les images, les titres répercutants, les actions de jeu ont pu quand même influencer la manière de percevoir le monde des enfants et surtout de développer leur ferveur patriotique. Les livres et les revues pour enfants devraient notamment aussi être pris en compte puisque eux aussi justement vont se révéler nombreux et je pense aussi très efficaces. Voilà.